BPM, élections législatives 2024.
Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale en direct consacrée au deuxième tour des élections législatives pour la 9e circonscription. Nous recevons ce matin les deux candidats qui s'affronteront dimanche. Laurent Morin du Rassemblement National est parmi nous. Monsieur Morin, bonjour.
Bonjour.
Ah, pardon, excusez-moi. Allez-y.
Bonjour.
Voilà, on vous entend mieux. Vous êtes arrivé donc premier avec 34,49% des voix. Diana Badiop du Nouveau Front Populaire est arrivée deuxième avec 29,64% des voix. Et Bruno Millième est arrivé troisième avec 21,35% des voix dans la 9e circonscription. Alors avant de revenir dans votre circonscription, la première question que j'ai à vous poser, c'est que pensez-vous du résultat national de ces élections ?
Bah écoutez, bien évidemment, nous sommes très satisfaits de ce résultat au niveau national, puisqu'il va dans la continuité des résultats des élections européennes qui étaient déjà très bons et qui nous avaient placés en tête. Pour le premier tour des élections législatives au niveau national, nous passons de 4 millions de voix en 2022 à près de 12 millions de voix en 2024. Donc nous multiplions par 3 notre score. Nous enregistrons surtout l'arrivée de nos nouveaux alliés des Républicains grâce à l'accord que Jordan Bardella a passé avec Éric Ciotti. Donc évidemment, tout cela est très satisfaisant puisque nous arrivons à un seuil dans la population française qui nous permet d'envisager non seulement d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, de permettre à Jordan Bardella de constituer un gouvernement, de lui permettre de devenir Premier ministre, et donc de pouvoir surtout, c'est ça qui est vraiment l'essentiel, de pouvoir enclencher le redressement de la France, le sursaut que la France mérite face effectivement à l'échec de l'ensemble de l'échiquier politique qui ont tous, sauf nous, été au pouvoir.
Alors justement, Jordan Bardella, Premier ministre, pas Premier ministre. Alors il y a quelques jours, on l'a vu sur TF1, il disait « Ah, alors si j'ai pas la majorité absolue, s'il manque quelques sièges, je serai peut-être Premier ministre ». Hier, Marine Le Pen, toujours sur TF1, a dit « Bah non, il faut la majorité absolue ». Alors, sera-t-il ou ne sera-t-il pas ? Admettons, vous avez 260 sièges. Prenons un exemple. Est-ce qu'à votre avis, il sera Premier ministre ?
Oui, bah cela dépendra effectivement du score final que nous réaliserons. L'objectif, quand Jordan Bardella ou Marine Le Pen disent qu'il nous faut la majorité absolue pour que Jordan Bardella soit Premier ministre et qu'on puisse constituer un gouvernement, c'est évidemment parce que nous souhaitons mettre en œuvre notre programme. Et si nous n'avons pas la majorité absolue, nous ne pourrons pas le mettre en œuvre.
Donc, alors, entre guillemets, ça fait 2 ans que le parti présidentiel n'a pas la majorité absolue et il arrive quand même à plus ou moins gérer le pays.
Oui, oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle notre objectif, c'est d'avoir la majorité absolue pour mettre en œuvre notre programme, parce que la France en a besoin. Nous sommes en échec sur tous les... Enfin, Emmanuel Macron est en échec sur l'ensemble des secteurs. La France est en train de s'effondrer partout. Donc l'objectif, c'est la majorité absolue. Par contre, si nous ne l'avons pas et que nous sommes proches de la majorité absolue, il n'est pas impossible, et ça Marine Le Pen l'a dit et Jordan Bardella également, il n'est pas impossible que malgré tout nous acceptions quand même de constituer un gouvernement et que Jordan Bardella accepte d'être Premier ministre, car nous sommes en pourparlers depuis déjà 2022 avec certains députés, par exemple des LR, qui sont proches de nos idées, qui sont déjà députés à l'Assemblée nationale et qui pourraient être réélus et qui pourraient du coup constituer l'appoint supplémentaire pour obtenir la majorité absolue et pouvoir faire avancer le pays. Donc même si nous obtenions peut-être 270, 275, peut-être encore un peu moins, députés à l'Assemblée nationale, mais que nous pouvons compter sur une vingtaine peut-être de députés LR qui nous rejoindraient sur des textes très importants, eh bien on pourrait effectivement relever le challenge.
Alors on va revenir dans la 9e, j'aimerais connaître votre analyse sur ces résultats. Vous êtes arrivé premier avec 34,49% des voix.
Oui, bah c'est effectivement exceptionnel parce que c'est... Ces résultats sont effectivement au diapason de nos résultats au niveau national. Sur la 9e circonscription, écoutez bien ces chiffres. En 2022, j'arrive donc second derrière Bruno Millienne avec 9 600 voix. Et en 2024, j'arrive premier avec 21 500 voix. On multiplie par plus de 2, voire 2,5 le score de 2022. C'est absolument exceptionnel. Et je tiens d'ores et déjà à remercier l'ensemble des électeurs pour s'être portés sur ma candidature de manière aussi massive. Donc ce sont des résultats exceptionnels. Nous sommes en tête dans quasiment toutes les communes de la circonscription. Et donc, pour le second tour, nous avons encore la possibilité de, sans aucun problème, je pense, d'élargir notre socle, puisque nous avons, contrairement à ce que aux élections des années passées, cette fois-ci, nous avons des réserves de voix très importantes que nos adversaires n'ont pas. Il y a une sorte de retournement dans l'échiquier politique.
Alors, quelle réserve de voix? Parce que Bruno Millième, qui s'était techniquement qualifié pour le second tour, s'est désisté en faveur de Madame Diop.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il se désiste en voulant la soutenir, mais en même temps, il dit que ce sera peine perdue pour elle, que probablement la circonscription basculera pour le Rassemblement national. Donc, il a conscience, effectivement, que nous avons ces réserves de voix, que Madame Diop n'en a sans doute pas.
Elles viennent d'où, alors, ces réserves de voix?
Elles viennent, par exemple, des électeurs des Républicains, qui, je pense... ne vont certainement pas voter pour la candidate de la gauche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le macronisme est mort. Donc, il y a une sorte de retour.
21%, Bruno Millième, c'est pas tout à fait mort.
Oui, mais au niveau national, je pense que le macronisme est mort. Emmanuel Macron est totalement dévalorisé, démonétisé, décrédibilisé. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte de retour aux réflexes d'avant le macronisme. C'est-à-dire qu'on revient sur des réflexes droite-gauche. Et en l'occurrence, la 9e circonscription, avant que le macronisme existe, était plutôt une circonscription de droite. Donc j'ai l'impression qu'il y a un retour à ces réflexes-là, ce qui constitue pour nous des réserves de voix. Il y a aussi notre réserve de voix chez les électeurs qui ont été peu nombreux, certes, mais qui voteront probablement pour moi au second tour, les réserves de Reconquête. Et puis vous savez, même chez les électeurs macronistes, ils n'écouteront pas les consignes de vote. Ils sont tout à fait libres. On l'a vu en 2022 dans certaines circonscriptions de France où, de manière assez majoritaire, ils ont voté pour notre candidat Rassemblement National au second tour contre la NUPES en 2022. Et ce sera probablement le cas. Et d'ailleurs, j'alerte quand même une chose importante, les électeurs macronistes de la 9e circonscription, sur le danger que représente l'extrême gauche pour le pays en général, mais pour eux en particulier, puisque hier, Sandrine Rousseau a indiqué que l'épargne des Français seraient mises à contribution pour financer leurs projets totalement délirants d'un point de vue économique et budgétaire. Donc je pense que l'extrême gauche va s'attaquer à l'épargne des Français, aux impôts des Français avec une augmentation de taxes et d'impôts massives, et va s'attaquer aussi aux propriétaires. On sait très bien que les propriétaires sont une cible de l'extrême gauche. Et dans la 9e circonscription, on a beaucoup de propriétaires, beaucoup d'épargnants. J'alerte les électeurs sur le danger que représente l'extrême gauche. Donc on a des réserves de voix un peu partout.
D'accord. Pour vous, Madame Diop est d'extrême gauche?
Oui, tout à fait, parce que dans cette alliance...
Elle est socialiste.
Oui, elle est socialiste, mais elle a voté comme tous les socialistes. Et d'ailleurs, ça a fait grincer des dents chez les socialistes, y compris chez M. Glucksmann. Ils ont tous signé l'accord du Front Populaire. Et dans cet accord, d'un point de vue programmatique, il y a par exemple la validation de la submersion migratoire, puisqu'en fait, ils veulent régulariser l'ensemble des sans-papiers, créer un statut de réfugié climatique, ouvrir les vannes totales de l'immigration. Il y a aussi donc un programme économique et budgétaire qui est totalement délirant, qui est chiffré à plusieurs dizaines ou voire centaines de milliards d'euros et qui effectivement n'est pas finançable et qui amènerait le pays à la ruine économique, au chaos migratoire, au chaos sécuritaire. Et puis ça, c'est d'un point de vue programmatique, mais d'un point de vue purement politique, Madame Diop et le Parti Socialiste s'allient avec, par exemple, le NPA, donc qui représente la violence politique par excellence, soutiennent les amis du Hamas, ce qui pose la question de leur ambiguïté sur la question de l'antisémitisme. Donc évidemment, ça, c'est totalement inacceptable. Et effectivement, ils représentent une alliance du pire, une alliance de la violence. Et on peut les catégoriser effectivement d'extrême gauche. Et je vous raconterai, si vous voulez, une anecdote de ce qui s'est passé sur le marché de Houdan.
Eh ben, allez-y.
Mais écoutez, vendredi dernier, nous étions sur le marché de Houdan en pleine campagne de premier tour, et puis Madame Diop était à 5 mètres de nous, donc nous on discutait tranquillement avec les gens, puis on sentait que le ton montait entre elle et un monsieur qui était de Houdan, et le ton est monté de telle manière que le monsieur en fait a décidé d'arrêter cette conversation et de venir immédiatement nous raconter ce qui s'était passé. Et donc le monsieur nous indique que c'est un électeur socialiste qui voulait dire à Madame Diop justement que c'était, ce n'était pas normal de s'allier, que le Parti socialiste s'allie avec, avec l'extrême gauche, avec la France insoumise, avec le NPA, etc. Et visiblement, Madame Diop l'a très mal pris et lui a dit que, en fait, voilà, ce monsieur était finalement un blanc privilégié. Donc, elle a stigmatisé effectivement un électeur par sa couleur de peau, ce qui est totalement inacceptable. Et effectivement, cet électeur est venu nous voir pour nous raconter cela et nous dire que il n'avait déjà pas l'intention de voter pour elle, mais que suite à cette remarque de Madame Diop, il voterait probablement pour nous. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs socialistes qui n'ont pas digéré cette alliance. Avec la France insoumise qui est un parti aujourd'hui très ambigu sur l'antisémitisme, qui s'allie avec l'islam politique et qui surtout bordélise l'Assemblée nationale comme on l'a vu pendant deux ans avec leurs députés. Et je pense que beaucoup d'électeurs ne veulent pas de cela, beaucoup de Français ne veulent pas de cela, veulent un représentant, un député qui soit raisonnable. Et les gens raisonnables doivent se mobiliser pour écarter cette candidate.
Eh bien, Madame Diop sera à ce même micro tout à l'heure, on lui posera la question sur le marché de Houdan. Une autre question qui revient souvent chez les journalistes, vous refusez tous les débats.
Oui, pour les raisons que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire que moi je considère que les candidats du Front Populaire ne font pas partie de l'arc républicain par l'alliance qu'ils ont acceptée avec le pire de l'extrême gauche. Et puis aussi par le fait qu'il s'engage dans un programme qui signe la fin de la France sur plein d'aspects. Donc moi je considère que je ne peux pas débattre avec des gens qui
n'ont pas quelqu'un d'extrême.
Oui, avec quelqu'un d'extrême, avec des gens qui n'ont pas condamné de manière ferme les attentats du 7 octobre en Israël en ne voulant pas dire que le Hamas est un groupe terroriste islamiste. Voilà, la LFI et tous ceux qui s'allient avec la LFI se discréditent, sortent du champ républicain. Et moi, je considère que si je considère que j'appelle les Français à écarter cette alliance pour le bien de la France, dans ce cas-là, je considère que je ne dois pas débattre non plus avec eux. Moi, je passe mon temps sur le terrain, surtout, à essayer de convaincre les électeurs de cela et j'espère pouvoir emporter la majorité et la raison des électeurs français sur ce point.
Eh bien, on va essayer de les convaincre. Hein. On va, en tous les cas, les auditeurs de BPM, on va passer à votre programme. Alors, la mesure phare de votre programme, c'est soutenir le pouvoir d'achat. Comment on fait ?
Alors, on a trois mesures immédiates que nous voulons mettre en œuvre. D'abord, dès le mois de juillet, la réduction de la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques, donc le fuel, le carburant, le gaz, l'électricité. Donc ça va permettre de rendre du pouvoir d'achat immédiatement aux Français. La deuxième mesure immédiate, c'est l'exonération des charges patronales pour les augmentations de salaire de 10% que les entrepreneurs, les employeurs pourraient décider. Donc ça vient appuyer effectivement la décision des entrepreneurs pour rendre du pouvoir d'achat en augmentant les salaires. Ça, c'est immédiat au mois de juillet.
Là, vous baissez les charges sociales de 10%, c'est ça ?
Non, en fait, on exonère les patrons des charges patronales sur l'augmentation des salaires de 10%.
D'accord, si on augmente de 10%, on a des baisses de charges.
Oui, il n'y a pas
en gros,
ouais, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça, tout à fait. Ça n'a pas d'impact sur les charges patronales pour les entreprises.
Et pour la TVA, vous voulez la descendre à 5,5, mais tout le temps ou pendant 6 mois, pendant un an, pendant 10 ans ou...
C'est une décision qui se veut permanente.
D'accord.
Mais effectivement, après, il peut y avoir des réajustements selon la situation économique que nous trouverons aussi, parce que nous allons lancer un audit sur les comptes de l'État.
Bah, elle n'est pas terrible. Hein.
Oui, on peut l'affirmer.
On peut l'affirmer, ça.
On peut l'affirmer que la situation économique de la France n'est pas terrible, et non seulement la situation économique, mais aussi la situation budgétaire, puisque vous avez vu que les agences de notation ont dégradé la note de la France pendant les élections européennes, ce qui montre bien que le pays est mal géré par Emmanuel Macron. Et puis, on a aussi une procédure de l'Union européenne pour déficit excessif contre la France qui a été engagée il y a très peu de temps. Donc tout cela montre que les comptes de l'État ne sont pas bien gérés. Nous, c'est notre approche justement d'avoir une bonne gestion des comptes de l'État en bon père de famille. Donc nous allons lancer un audit pour voir véritablement, précisément, parce qu'il y a sans doute des choses qu'on va découvrir. Hein, on sait très bien que la France est dans un très mauvais état économique et budgétaire, mais on va peut-être découvrir pire. Donc ça va aussi nous permettre d'ajuster les choses par rapport aux mesures que nous voulons mettre en œuvre. Et donc, la troisième mesure que nous mettrons en œuvre au moment du vote du projet de loi de finances à l'automne prochain, c'est la suppression totale de la TVA sur des produits de première nécessité. Donc, ces trois premières mesures vont permettre de rendre du pouvoir d'achat.
Quels sont à peu près ces produits ?
Les produits de la vie courante, hein, l'alimentaire, les produits de nettoyage. Voilà, il y a un panel de 100 produits de première nécessité que les Français achètent régulièrement toutes les semaines et qui donc subiront cette suspension, cette suppression de la TVA.
Total.
Total, oui. Total.
Total. Très bien. Est-ce que, puisqu'on parlait de budget de l'État, est-ce que c'est pas un peu de la faute du Covid ?
Bah non, parce
1000
que...
1000 milliards.
Oui, alors justement, c'est une très bonne question parce que ça permet de rétablir un certain nombre de vérités, parce que les macronistes souvent sont dans le mensonge, hein, on l'a bien remarqué sur beaucoup de sujets. Et là, effectivement, ils essayent de nous faire croire que l'augmentation des 800 milliards, quasiment 1000 milliards de dettes françaises, ça provient uniquement de la période Covid et de la politique du quoi qu'il en coûte pour soutenir les entreprises et les Français. Ce qui est totalement faux parce qu'en fait, dans les 1000 milliards de dettes supplémentaires, il n'y a simplement que 200 milliards qui peuvent être attribuables à la période Covid. Le reste, les 800 milliards supplémentaires, c'est de la mauvaise gestion d'Emmanuel Macron. Donc c'est véritablement lui qui est responsable de cette augmentation de la dette. Et on l'appelait, il se faisait appeler le Mozart de la finance quand il est arrivé aux affaires. On peut dire maintenant avec totale certitude que c'est finalement le cancre de la finance.
Il nous reste 3 minutes, on va essayer de passer à 2-3 sujets. L'âge de la retraite, 62 ans, oui ou non ?
Alors c'est 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans parce qu'on considère qu'ils ont des métiers très difficiles d'un point de vue physique et qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler au-delà des 60 ans. Donc avant 20 ans, la personne qui a commencé avant 20 ans et qui a 40 annuités peut partir à la retraite à 60 ans. Pour les autres, il y a une progressivité qui les amène jusqu'à 62 ans. Voilà.
Donc c'est 60 ou 62 ans ?
C'est 60 ou 62 ans.
Pas plus ?
Pas plus. Alors évidemment, une personne qui a commencé à travailler à 26 ans oui. doit avoir ses 42 annuités, donc peut finalement devoir partir à la retraite plus tard. Mais une personne qui a commencé à travailler à un âge plus précoce partira à 62 ans.
Vous voulez stopper la submersion migratoire ?
Oui, tout à fait, parce que depuis des dizaines d'années, tous les sondages le disent de manière régulière, les Français veulent stopper la submersion migratoire parce que l'immigration représente un problème pour les Français. De manière très majoritaire, les sondages indiquent que 70% des Français veulent des décisions fermes sur ce sujet. Donc nous souhaitons effectivement mettre en place la double frontière, maîtrise des frontières nationales, maîtrise des frontières extérieures de l'Union européenne, avec notamment... l'ancien directeur de Frontex qui nous a rejoint et qui maîtrise ces dossiers-là, il nous a indiqué que les outils existaient pour contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne, mais que la volonté politique n'existait pas. Donc nous, la volonté politique, nous l'avons. Nous souhaitons expulser de France tous les délinquants, les criminels et les islamistes étrangers. Nous souhaitons effectivement aussi expulser tous les sans-papiers qui ont violé la loi française en entrant sur le territoire français de manière illégale. Il y a quelques années, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis disait lui-même qu'il ne savait pas quelle était la population de la Seine-Saint-Denis parce qu'il n'y avait aucune statistique, il y avait beaucoup de clandestins. Donc nous souhaitons effectivement maîtriser ça en supprimant aussi le droit du sol.
Et vous voulez remettre la France en ordre ?
Et effectivement, remettre en la France en ordre, puisque c'est établi de manière tout à fait officielle maintenant. Il y a eu pendant des années aussi sur ce point-là un certain nombre de dénis, de mensonges. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Le ministère de l'Intérieur l'a indiqué. Il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité. 70% des faits de délinquance en région parisienne sont le fait de d'étrangers. Dans les prisons, nous avons 25% de détenus étrangers. Donc il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité. Sur l'insécurité, par exemple, nous souhaitons remettre en cause l'excuse de minorité, par exemple. Nous souhaitons suspendre les allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes. Donc voilà, un certain nombre de mesures fortes sur la sécurité pour remettre la France en ordre. Et remettre la France en ordre, c'est pas simplement sur la question de la sécurité, c'est aussi, comme je vous l'ai dit auparavant, remettre la France en ordre sur d'un point de vue économique, d'un point de vue budgétaire, en ayant une gestion de, de bon père de famille et en mettant en place un contexte favorable pour les entreprises et pour les consommateurs.
Alors, vous voulez durcir un petit peu le ton, vous voulez mettre un petit peu plus de gens en prison, si j'ai bien compris. Êtes-vous pour ou contre le projet de la prison de Magnanville ?
Alors, nous sommes pour la construction de places de prison, mais encore faut-il choisir correctement les emplacements. Et en l'occurrence, sur ce projet donc, qui se situe entre Magnanville, 8e circonscription, et Soindre, 9e circonscription, il y a une levée de bouclier non seulement des habitants, mais également des élus, parce que le projet est très très mal placé, à proximité d'un établissement scolaire, sur des terres agricoles, à proximité des habitations qui du coup perdront effectivement leur valeur. Il faut quand même se mettre à la place des gens qui travaillent, qui se sont endettés pour leurs habitations. C'est le projet d'une vie, et du jour au lendemain, l'État, sans consultation avec les élus, décide d'y placer une prison. Moi, j'ai vu les plans, c'est une grosse prison. Évidemment, c'est totalement inacceptable. Donc, nous sommes pour la construction de places de prison, mais nous sommes contre ce projet qui est très mal placé. Et donc, nous l'avions déjà dit en 2022, nous le redisons maintenant.
Alors, vous voulez la placer où ?
Ben, y a certainement d'autres emplacements. On peut, je crois, sans trop de problèmes, trouver des friches industrielles, par exemple, puisque Emmanuel Macron et les gouvernements précédents ont désindustrialisé la France. Il y a beaucoup de friches industrielles, il y a sans doute d'autres emplacements. Moi, je n'ai pas géré jusque-là le dossier de manière précise, mais je crois que la préfecture a écarté des pistes qui n'auraient pas dû être écartées.
Pour conclure, pourriez-vous dire à nos électeurs qui nous écoutent ?
Eh bien, qu'ils se mobilisent, parce que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit l'extrême-gauche prend le pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui apporterait le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, la ruine de la France et surtout aussi l'effondrement de notre image à l'international, puisqu'on aurait un gouvernement qui est ambigu sur la question de l'antisémitisme, par exemple, qui n'a pas condamné de manière ferme les attentats du 7 octobre en Israël. Donc soit c'est l'extrême gauche qu'il faut absolument écarter, soit c'est nous, donc toute la République, rien que la République, le sursaut de la France. Donc les électeurs, je pense, moi j'ai du mal à imaginer, par exemple sur notre circonscription, que des électeurs qui sont raisonnables, qui sont plutôt les électeurs macronistes ou de droite, j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent faire basculer la circonscription à gauche et prendre le risque que la France soit gouvernée par l'extrême gauche violente. Donc voilà, je les appelle à la mobilisation pour ma candidature qui représente la candidature du sursaut de la France et de la République.
Eh bien, merci Laurent Morin, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup à vous.
Cette émission sera rediffusée à midi et 18h. Vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique législative 2024. À 8h30, ça sera Dienaba Diop que nous recevrons. Alors, restez bien là. Dans quelques minutes, nous reparlerons des législatives 2024 sur BPM.
BPM, élections législatives 2024.